Histoire du christianisme en France. Jean-Yves Delors et Michel Fauquier.
Bonjour Monsieur Fauquier.
Bonjour Monsieur Delors.
Nous avons déjà parlé à plusieurs reprises de l'arianisme, mais en fait, sans vraiment dire ce que c'est, la France aurait presque pu devenir arienne.
C'était parti pour, en tout cas. Oui, parce que, vous avez les Visigoths qui le sont totalement, les Burgondes qui le sont trois quarts, les Alamans,
oui.
Une confusion qu'on fera évidemment intentionnellement au début du XXe siècle, vous pensez bien. Les Alamans font pression sur la frontière nord-est de la France. Bon, on ne sait pas trop, on était les Armoricains à l'époque. Et au milieu, il reste les Francs qui sont païens. Les choses sont quand même très très mal parties pour le catholicisme. À ce détail près, qu'elles sont très mal parties en termes de proportion, mais en termes de structure, pas du tout. Parce que la totalité du clergé gaulois, structurel, d'origine, lui est resté attaché au catholicisme. Hein, à commencer par le fameux Saint-Rémy, qui va baptiser Clovis, et beaucoup d'autres d'ailleurs. Alors, quel est l'enjeu? Alors d'abord, cet enjeu, il vient de très très loin, il vient d'Alexandrie.
Oui.
Et c'est un enjeu qui mêle des dimensions spirituelles, bien sûr, théologiques, plus exactement, et en même temps des enjeux de pouvoir. C'est-à-dire la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on se positionne, c'est un débat fréquent à Alexandrie, par rapport à l'autorité de l'évêque.
Oui.
Bien. Et c'est précisément quelqu'un qui s'oppose à cette autorité, un certain Arius, d'où Arien, qui est au IIIe siècle, donc 256-336, il est à cheval sur le IIIe et le IVe siècle, va développer une théorie qui sera finalement condamnée une première fois, et ceci sera validé par la suite, même s'il y a eu beaucoup de va-et-vient entre-temps, par le Concile de Nicée. Cette doctrine, à laquelle on attache son nom, l'arianisme, est une doctrine qui se constitue dans le cadre des visions que l'on appelle adaptionnistes.
Il va falloir nous expliquer. Hein.
Oui. Adoptionnistes, si vous préférez, pour franciser les choses de façon plus moderne, qui est la question de savoir quelles relations entretiennent dans la Trinité Dieu le Père et Dieu le Fils.
Oui.
À vrai dire, pour les Ariens, justement, le Fils n'est pas Dieu.
Ah oui.
Il est, d'où le nom de ce grand débat général sur l'adoption donc du Fils par le Père, il est donc adopté par le Père. Et en ce sens, il est Fils au sens le plus fort du terme. Donc si vous voulez, de toute éternité, Dieu existe. Par contre, le Fils est engendré, adopté, selon le terme donc, de ces théologiens, à un moment dans le temps, ou alors il y a un débat aussi, mais ça c'est un débat théologien pour savoir s'il a été adopté de toute éternité. C'est des débats très très compliqués.
Oui.
Vraiment très compliqués.
Ça nous dépasse.
Oui, vraiment. Mais je crois que ça dépasse vraiment tout le monde. Et même les contemporains vont être complètement dépassés, parce qu'au bout du compte, j'ai fait le total, il va y avoir 4 et 4, 8 et 3, 11, 11 variantes, et pour simplifier, 11 variantes de l'arianisme. Et donc, au bout du compte, la théorie de Darius, c'est que le Christ ne peut pas avoir été incarné, c'est absolument impensable.
Ah oui.
Il n'est évidemment pas mort, c'est aussi impensable. Et il en fait une sorte d'esprit qui prend des formes successives, des apparences, si vous voulez. Donc, il a l'apparence d'un enfant qui naît, il a l'apparence d'un homme qui meurt sur la croix, mais au fond, Dieu étant Dieu, son fils étant, on ne peut pas dire la chair de sa chair, mais disons, directement issu de lui-même, il est hors de question que quelque humain ait pu le toucher. Voilà.
Oui, c'est tout à fait différent quand même.
C'est vraiment très différent du catholicisme. Et surtout, ça a des implications politiques sur lesquelles Michel Rouche a attiré avec beaucoup d'intelligence notre attention, car les théologies adaptionnistes ou adoptionnistes, si on veut franciser les choses, supposent une vision hiérarchique au sein de la Trinité.
Oui.
Et que l'on peut transposer très facilement dans le champ politique, en estimant que on peut hiérarchiser les rapports de société et hiérarchiser les rapports d'autorité.
Ah oui.
Alors que dans le catholicisme, il y a une unité de substance entre les trois personnes. Vous remarquez au passage qu'il y a y compris un grand absent dans l'arianisme qui ne s'intéresse pas beaucoup au Saint-Esprit, qui n'a à vrai dire rien à dire dessus parce qu'il ne comprend pas ce que c'est. Et là, on a une dimension de communion. Et donc, les théories ariennes vont beaucoup intéresser les rois goths et vont justifier un pouvoir qui va se regarder comme au-dessus de tous les autres pouvoirs, qui dérivent de lui-même, de la même manière que le fils dérive du père. Alors que dans la catholicité, va se développer une figure complètement différente du roi, qui est un membre d'une communauté dont il a la responsabilité, comme le Christ est la tête du corps qu'est l'Église.
Ça explique un peu pourquoi, finalement, la plupart des peuples qui occupaient la Gaule sont devenus ariens.
Alors, ils ne sont pas devenus ariens pour cette raison-là, mais disons, ils s'en sont arrangés.
Oui, c'est ça. Ils ont profité.
Ça correspondait bien à leur vision, peut-être même culturelle d'origine. Mais comme nous l'avons dit précédemment, les Goths sont devenus ariens en se positionnant par rapport à une Rome dont ils se sont finalement détachés, qui, elle, avait fait le choix de l'anti-arianisme. Mmh. Et donc, en gros, un anti-arien, c'était un Romain, et un arien, c'était un non-Romain.
Mmh. Voilà.
Pour le reste, après, ils se sont arrangés d'une situation qui, politiquement, était plus parlante à leurs yeux.
Merci beaucoup, Michel Fauquier.